On va continuer tout de suite et remettre les questions à plus tard avec Denise Bauer de la DGOS.
Bonjour. Donc Denise Bauer, donc je suis la tutelle, Madame Tutelle. Donc effectivement, je suis en charge du dossier PASS depuis à peu près une année, sachant que j'avais d'autres dossiers pendant un moment assez lourd, notamment la question des détenus, il y en a qui peuvent en témoigner ici. Et donc, voilà, vous me pardonnerez peut-être quelques maladresses. En tout cas, je m'emploie à connaître les PASS. Aujourd'hui, c'était une journée très, très riche pour moi, parce que j'ai entendu les gens parler vraiment, même si souvent il m'arrive d'appeler, et d'appeler même directement dans les hôpitaux pour savoir. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont interpellé en disant « Ah, c'est vous, Denise Bauer, je vous ai au téléphone tel jour, mais j'ai appelé tellement de monde pour essayer de comprendre, pour essayer de saisir, je vais vous expliquer. » Donc, je vais vous rappeler très très vite, parce que là, on n'a plus le temps, on ne va pas me présenter là-dessus, sur ce qui s'est passé. Donc, la prise en charge, il y a eu des évolutions dans le dispositif des PASS, et c'est vrai que... merci. C'est vrai que les différentes étapes, c'est d'abord la mise en place des PASS, ensuite la mise en place du financement spécifique par les MIG. Je sais que ça fait beaucoup parler, j'en parlerai pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est une étape importante quand même. L'inscription par la loi HPST et de la lutte contre l'exclusion dans les missions de service public est quand même aussi une étape importante du dispositif. Donc la naissance du dispositif, tout le monde le sait, 29 juillet 1998, la loi de lutte contre les exclusions, c'est là que naissent les PASS et l'article 6126 du Code de la santé publique. Permanence adaptée aux personnes en situation de précarité pour faciliter accès et accompagnement dans les démarches. Ensuite, c'est vrai que le financement par les MIG intervient beaucoup plus tard, en 2007, mais c'est vrai que c'était un choix la tarification à l'activité, par définition, excluait des dispositifs particuliers, puisqu'elle supposait que toute activité rentrait dans un GHM et dans un financement bien codé. Et là, pour le coup, un certain nombre de missions d'intérêt général ne pouvaient pas y rentrer. Il a été défini que les PASS ne pouvaient pas y rentrer. Et donc, c'est un article du Code de la Sécurité sociale qui le fait en place. La mission de service public, c'est vrai qu'on a donc bien précisé par la loi HPST qu'il y avait maintenant une mission de service public, que ça faisait partie des missions de service public que devaient remplir les établissements de santé. Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer en tout ou partie une ou plusieurs des missions de service public. Et donc, la mission qui vous concerne plus spécifiquement, c'est la mission, l'alinéa 9, la lutte contre l'exclusion sociale en relation avec, c'est important, les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi qu'avec les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion, la lutte contre l'exclusion et la discrimination. Et donc là, on voit bien la dimension relais que peut assumer, notamment certains dispositifs comme les PASS. Et je termine donc pour rappeler l'égal accès aux soins de qualité, chose dont M. Batifoulier et Mme Parel nous ont parlé plus précisément tout à l'heure, à savoir que c'est précisé dans l'émission, article 6112.3 du même code, l'établissement de santé ou toute personne chargée d'une ou plusieurs émissions de service public, puisque c'est élargi au établissement de santé, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions l'égal accès à des soins de qualité. Bon, je suis désolée, je l'ai fait quand même. Voilà, mais c'était un petit rappel. Donc, sur les missions des PASS, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de PASS. Mais c'est vrai que les missions, et je crois que je m'appuie quand même beaucoup là-dessus, sur le document qui a été de recommandation qui a été fait par la DOS en 2008, qui ne s'appelait pas encore la DGOS. Et donc, définissez quand même quatre actions. C'est vrai qu'il y a un rôle direct auprès des patients, mais aussi un rôle indirect auprès des professionnels. C'est un petit peu en ce sens-là qu'on parlait tout à l'heure de culture PASS, et c'est vrai qu'on adhère beaucoup à ça. C'est l'idée qu'il y a une transversalité, il y a une information qui doit être faite, et quand on discute avec, comme actuellement on le fait beaucoup dans le cadre de groupes de travail sur le lien avec le social, on est très soucieux de développer cette culture, parce que les gens du social se plaignent beaucoup du fait que les gens du médical ne sont pas toujours avertis ou sensibilisés correctement aux problèmes de précarité, n'identifient pas toujours les questions de précarité. Et c'est vrai qu'un des rôles de la PASS, alors on vous charge beaucoup, désolé, mais un des rôles de la PASS, c'est aussi d'informer, de sensibiliser les médecins à ce rôle-là. Notamment, je pense à un groupe périnatalité-précarité qui est qui travaille en ce moment pour définir des éléments pour les femmes précaires qui accouchent. Et il y a vraiment un souci de trouver des outils permettant aux médecins moyens, entre guillemets, excusez-moi, d'identifier la problématique précarité qui va conditionner beaucoup ses relations avec la personne. Ensuite, il y a structurer les relations avec les acteurs internes et externes. Et là, c'est vrai que je pensais à la dame de ce matin qui nous disait, mais j'ai déjà tellement de travail, si en plus, enfin, essayer de trouver du temps pour arriver à mobiliser, à s'organiser avec les acteurs internes encore, mais externes, c'est encore plus compliqué. Et en témoigne le fait que quand des fois, moi, j'appelle, j'évite de dire je suis du ministère d'anglais, mais quand j'appelle et que je dis, voilà, je voudrais prendre contact avec les gens de la PASS, j'ai parfois des blancs au bout du fil quand même. Donc, c'est vrai que la communication avec les acteurs internes, elle est importante aussi. Alors, la question des outils opérationnels, j'en parlais plus précisément, et la communication, bien sûr. Donc là, je vais vous donner quelques éléments. Je crois que je vais tenir dans les temps, je tiens bon bout. Donc, avec un premier état des lieux, parce qu'on a quand même des évaluations qui ont été faites, qui sont très imparfaites, on n'est pas très content, on voudrait les améliorer, on veut leur lancer. C'est un travail un peu perpétuel, mais ce n'est pas facile, c'est ce que disait Madame Lamouche tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, quand on cherche à identifier les passes qui fonctionnent, nous, on a des éléments budgétaires, et quand on cherche à identifier les passes qui fonctionnent par rapport à ces éléments-là, on a parfois des difficultés à identifier. Donc, premier état des lieux, la naissance de passes, c'est spécifique, donc ça c'est, je vous parlais de l'appel d'offres de la fin 2009, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais je vais vous le préciser et quelle passe il s'agit. Et puis, il y a des travaux qui vont être menés, et j'ai un groupe de travail qui doit être monté sur la MIC-PASS. Donc, on prend les gros mots, c'est-à-dire effectivement, on va travailler sur une MIC-PASS de manière à pouvoir relier moyens et activités de chaque passe à la MIC dont elle bénéficie. Et puis, je vous parlerai de 2-3 autres études qui sont en cours. Donc, si on fait un petit état des lieux, ce que j'ai en magasin, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a, il y a plus de 400 passes qui ont été créées entre 1998 et 2010. C'est énorme. C'est une construction historique qui s'est faite très progressivement. Il y a eu des périodes où il y a plus d'essor, notamment au début des années 2000. Et puis, il y a eu des périodes où il y a des passes qui ont été créées un petit peu sur d'autres impulsions. On sait que ces passes sont essentiellement quand même situées dans des établissements publics de santé, mais pas que. Et que c'est plutôt des établissements de grande taille quand même. Donc, effectivement, on comprend bien la logique et qu'on vient bien de voir avec les établissements qui se trouvent à la paix. Et puis entre 2003 et 2008, on a vu, puisqu'en 2003 il y avait une première évaluation, en 2008 il y en a une seconde imparfaite, mais tout de même, on a quand même pu voir qu'il y avait un accès élargi. D'une part, un sixième des passes, enfin une passe sur six, on va dire, située dans des unités urbaines de petite taille ou des zones rurales. Donc je pense que là, on est quand même dans des problématiques autres que dans des problématiques de ville. Je me souviens notamment dans le cadre d'une réunion qu'on avait eue sur les passes bucco-dentaires, je ne sais pas si les gens étaient présents, je crois que oui, on savait très bien que les problèmes se posaient notamment pour les personnes qui sont en dehors, enfin qui sont vraiment dans le rural profond et qui ne viennent pas ou qui ont du mal à se déplacer. C'est un vrai souci. Et puis donc on a 2/3 des passes qui sont dans une tier ben de taille moyenne. Donc on a progressé, on n'est plus seulement sur la passe, sur la grande ville. On a aussi une petite diversité qui s'est faite. Alors, j'ai noté une fréquente proximité entre passes et services des urgences. Ça, c'est un débat. C'est un débat que j'ai croisé aujourd'hui, qu'on a croisé à d'autres moments. Est-ce qu'il faut, il ne faut pas, services des urgences? Oui, mais voilà. C'est vrai que moi, j'ai raconté l'anecdote à mes collègues tout à l'heure. J'étais l'autre, pour une question personnelle, dans un service d'urgence. J'ai posé la question de l'existence de la passe. On m'a dit qu'il n'y en avait pas. Et je viens de voir qu'il y en avait 2 ou 3, selon la carte de la PHP. Donc, voilà. Donc, effectivement, la proximité avec le service d'urgence n'est peut-être pas condamnable à tous les coups. Enfin, elle n'est peut-être pas recommandable non plus. Mais ça peut fonctionner, pourquoi pas. Mais pendant longtemps, ça a été un fonctionnement courant. Et puis, donc, c'est des équipes qui s'appuient largement donc, sur des travailleurs sociaux et du personnel infirmier et des médecins, dans l'ordre du nombre d'ETP qu'on avait pu relever dans une autre enquête. Donc, on voit qu'il y a une activité très hétérogène. Si on regarde les éléments qu'on avait récupérés dans l'enquête de 2008, sur le plan quantitatif, on avait 1/4 à 1/3 des PASS qui accueillaient moins de 100 personnes par an. Et à côté de ça, on a 20 qui accueillent plus de 2000 personnes par an. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes logiques, dans les mêmes fonctionnements par rapport à des PASS qui ont une fréquentation aussi différente. Même si ça ne condamne personne, mais voilà. Sur le plan quantitatif, effectivement, donc on a des PASS qui fonctionnent avec une assistance sociale essentiellement. Je ne les condamnerai peut-être pas si vite. Il faut voir, voilà. Et on a des PASS, donc comme la PASS de Saint-Louis que j'ai visitée, qui sont formidables, avec des consultations sans rendez-vous, un plateau technique, un accès organisé avec des plages horaires pour les spécialistes, etc. Donc nous, je vais témoigner d'une spécificité qui a été développée fin 2009 avec l'idée qu'il fallait développer des PASS un peu spécialisées sur des thématiques particulières. Et donc, courant 2009, il y a un appel d'offres qui a été lancé, donc pour des passes bucco-dentaires, pour des passes à vocation régionale, je sais que, voilà, il y a une personne qui va témoigner après moi, en parlera, et des passes psychiatriques. Donc, il y avait 60 millions d'euros fin 2009 qui ont été affectés pour 72 nouvelles passes spécialisées. On n'a pas dit qu'il y en aura 72. Il y a eu un appel d'offres qui a été lancé. On a sollicité les acteurs régionaux. À ce moment-là, c'était les ARH. Et on leur a demandé de nous renvoyer des projets sur des passes. On a utilisé pour les sélectionner à la fois donc, des critères géographiques, des critères sociodémographiques par rapport à la population a priori qui était en place. Et puis, on a tenu compte dans les projets qui étaient présentés de leur cohérence avec les recommandations indiquées dans le guide. Donc, il y avait un premier, une présentation par chaque ARH des projets qu'elle avait en main, qu'elle pouvait nous présenter. Et en fonction de ces projets, en fonction de l'avis qu'elle nous donnait sur ces projets et de ce qu'on en connaissait, on a sélectionné un certain nombre de passes dont il a été donné un financement à la fin de l'année 2009. Donc, il y a eu 17 passes bucco-dentaires qui ont été retenues. En plus de quelques-unes qui existaient déjà, notamment celle très connue, donc de la Pitié-Salpêtrière, qui a développé cette logique jusqu'au bout, jusqu'à les actes prothétiques. Et, bon. Donc 17 passes bucco-dentaires, c'est pour renforcer la mobilisation des acteurs de santé en faveur des soins dentaires et réduire le renoncement aux soins dentaires. C'est vraiment un renoncement aux soins très évident dans toutes les enquêtes que fait l'IRDES, notamment sur le renoncement aux soins. On sait très bien que c'est un lieu c'est un lieu où vraiment il y a des difficultés. Et pourtant, c'est quelque chose de très important, à la fois parce que c'est générateur de beaucoup d'infections et ça témoigne de beaucoup de choses. Et en plus, pour les personnes en grande exclusion, c'est très très important ça peut être très important de ne pas arriver avec une bouche sans dents. C'est des cas qu'on m'a raconté. Donc là, le dimensionnement du financement, c'était en fonction du projet qui nous était présenté. C'est-à-dire que des fois, c'est juste un fauteuil qui est ouvert deux après-midi par semaine, où on sait que des personnes précaires peuvent se présenter. Dans d'autres cas, on a quelque chose de beaucoup plus élaboré, avec un service, avec des renvois, avec, bon, comme à la Pitié-Salpêtrière, l'autre extrême. On sait que la plupart fonctionnent aujourd'hui. Alors moi, ça fait partie de mes pérégrinations téléphoniques, c'est-à-dire que moi, avec mon collègue Paul Carcenti de la DGS, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, effectivement, on s'est renseigné pour voir comment ça se met en place. Et des fois, ça se met en place...
S'il vous plaît, essayez d'être attentif et de respecter l'orateur pour qu'elle puisse... faire sa présentation dans de meilleures conditions, là, parce que l'après-midi est bientôt terminé, mais laissez-lui le temps de finir sa présentation dans de bonnes conditions, merci.
Oh ben, je croyais qu'il m'écoutait, moi, je suis désolée. Tant pis. Non, mais vous pouvez parler, mais doucement. Donc on a vu que la plupart de ces passes fonctionnaient aujourd'hui, même s'il y en a certaines dont on sait, notamment grâce au partenariat avec Médecins du Monde, que c'est pas complètement ça qui a été mis en place. Et puis ensuite, on a décidé de financer des passes régionales. Alors là, c'est des passes qui ont une vocation un petit peu de coordination et d'expertise pour toute la région. Et donc, j'ai discuté avec certaines passes, mais je ne suis pas encore complètement au point, mais notamment au Pays de la Loire. Je sais qu'ils mettent en place des référentiels de données, ça veut dire qu'ils mettent en place des comités de pilotage. Je dirais qu'ils gèrent plus particulièrement tout ce que la passe n'a peut-être pas toujours eu le temps de faire. Dans la communication et de l'organisation des relations avec les partenaires extérieurs ou intérieurs. Et enfin, on a donc décidé de financer 41 passes psychiatriques pour compléter l'interface médicale particulière avec les équipes mobiles psychiatrie précarité. Donc, M. Mercuel vous en a parlé de la passe psychiatrique de Paris ce matin. Il y en a une quarantaine qui sont mises en place, à la fois un objectif d'accélération de la mise en place des soins avec l'ouverture des doigts sociaux, à la fois renforcer les compétences des services sociaux des établissements de psychiatrie pour ces publics et le lien vraiment avec les établissements FCO pour la prise en charge de ces publics. Et donc 41 passes, là j'ai fait j'ai fait mon petit tour entre guillemets récemment, on va faire des tours plus sérieux, mais voilà, elles ont en moyenne bénéficié de 100 000 euros annuels sur la base du financement du personnel. Et donc on sait que la plupart sont, alors il y a une trentaine qui ont ouvert vraiment. Il y en a 5 qui sont en finition de mise en place. Par contre, il y en a 5 qui ont des difficultés d'installation. Donc, fin 2009, on est presque mi-2011. Soit des difficultés de recrutement, soit trouver des locaux adaptés. Alors, c'est vrai qu'on a des travaux en cours. Alors, sur la modalité de les réaliser, on est un peu inquiet parce que on a besoin d'informations, on l'a redit, sur le recensement des PASS. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de savoir où elles se trouvent, au-delà de savoir... D'accord ? On ne m'a pas laissé parler tout à l'heure. Au savoir comment... comment lesquelles PASS existent, on sait bien tout à l'heure, ça a d'ailleurs dit en Rhône-Alpes, qu'il y a des PASS dont on pensait qu'elles existent, elles n'existent pas. Enfin, en tout cas, on n'arrive pas à les identifier, d'une part, mais aussi savoir comment elles fonctionnent. Donc, premièrement, en général, ensuite, c'est vrai qu'on suit de très près la mise en place des nouvelles PASS pour voir si, effectivement, là, on a visé juste, si par rapport à la démarche de maillage territorial qu'on a pu avoir, ça fonctionne. Et puis ensuite, on a des questions sur l'insertion des PASS sur le territoire de santé. Et là, j'avoue qu'on est un peu en train de tâtonner pour voir comment on va travailler, mais il y a des travaux qui vont parler prochainement. On a un référentiel qu'on voudrait élaborer pour les MIGPASS. Bon, parce que la MIGPASS, c'est quelque chose qui s'est construit... Enfin, les financements pour les PASS se sont construits historiquement, c'est-à-dire que jusqu'en 2007, les financements étaient accordés en référence à du personnel de santé qui était mobilisé pour la PASS. Et puis ensuite, à partir de 2007, ça a été identifié par des MIG, et dans le cas où des nouvelles PASS se sont créées, on a dimensionné la MIG en fonction du personnel, bien sûr, aussi. Mais on voudrait savoir plus et savoir mieux dimensionner cette MIG, parce qu'on sait qu'il y a des PASS qui ne fonctionnent pas, on sait qu'il y a des PASS qui ont annoncé du personnel et qui finalement, voilà, et on a suffisamment entendu de cas aujourd'hui sur les 37 000, les 38 000, les 43 000, etc., nous illustrant qu'effectivement il y a un lien des fois qui s'est un peu défait entre les rebondissements successifs des financements depuis le ministère jusqu'aux équipes elles-mêmes, et le lien, on aimerait bien le refaire. Donc on aimerait bien pouvoir appréhender l'activité effective de chaque PASS, c'est-à-dire l'activité d'une PASS, c'est pas seulement le nombre de patients, c'est très important, mais il y a aussi beaucoup de démarches qui sont faites, et ces démarches-là, ça absorbe une partie du temps non négligeable. On aimerait bien, je pense un petit peu au système Edgar qui existe par rapport à la psychiatrie, avec entretien, démarche, etc. On aimerait bien trouver un système de comptage qui rende compte de toute l'activité, pas seulement les patients, mais aussi ce qu'on fait pour chaque patient. Et ce n'est pas que les consultations, c'est le travail de l'assistante sociale, etc. Donc, on a une activité qui est quand même multidimensionnelle, donc d'une part, effectivement, directement par rapport aux patients, mais aussi par rapport aux professionnels de santé, par rapport à la culture PASS qu'on va développer, par rapport aux liens qu'on va faire avec les acteurs en interne, en externe, et ça aussi, c'est important. Et on voudrait... Bon, ben voilà, je reprends, je me suis un peu mordi les doigts, mais pour tenir compte du nombre d'actes et du nombre de démarches. Donc, il y a un groupe de travail qui va se monter. Je sais qu'il y a déjà des personnes, quand j'en ai parlé à droite, qui ont dit « on veut venir, n'hésitez pas ». denisboer@centre.gouv.fr. Je serais ravie d'avoir d'une part vos témoignages, ou d'autre part de pouvoir compter sur votre présence à ce groupe de travail où je compte sur un certain nombre de professionnels de terrain pour coller au plus près de la réalité. Et je vais finir, comme ça vous pourrez parler, deux études en perspective avec l'adresse. Il y a une étude, ils ont fait une première étude, l'adresse, puisqu'on dit que les patients précaires restent plus longtemps en l'hôpital, et donc sur un GHM de ou par rapport à un type d'intervention de 3 jours, on va dire, ils vont rester 5 jours, et du coup, certains établissements vont dire, on est lésés sur ce plan-là. Donc, ils ont fait une première étude pour voir les liens qui pouvaient exister entre la précarité et effectivement la prise en charge de ces personnes. Alors, la précarité, comment l'appréhender ? Parce qu'une personne vient à l'hôpital, elle vient avec une pathologie, on dispose de certains éléments pouvant témoigner de sa précarité, mais lesquels ? Donc effectivement, il y a des codes qui existent, c'est-à-dire des moyens dans le PMSI, dans le système d'information, qui permettent de coder, ça s'appelle des codes Z, ça vous dit un peu ce que c'est, des codes Z où on peut marquer la personne n'a pas de logement, la personne, etc. Bon, ces codes, c'est pas toujours rempli, parce que c'est pas toujours utile, parce que c'est vrai que ce qu'on va monter, c'est la pathologie, etc. Mais voilà. Et c'est difficile de... En plus, le médecin, il se rend pas toujours compte, il perçoit pas toujours ce genre de problématique, il n'a pas toujours le temps de s'en soucier. Bon. Donc, ces codes ne sont pas remplis, donc cette enquête a nécessité de mobiliser des établissements en leur disant, vous remplissez ces codes, et puis à partir de là, on va voir... On s'est rendu compte que c'est un travail fou aussi de remplir ces codes pour tout le monde, parce que sinon on va louper des gens, bien sûr. Et donc ça nécessite un investissement non négligeable en temps. Et donc, est-ce qu'on peut le reproduire à l'échelle de la nation ? C'est une interrogation. Alors ils l'ont fait sur un échantillon, ils se sont rendu compte que le fait d'être pauvre, enfin d'avoir des problèmes financiers, le fait de, en soi, tout seul, ne signifie rien. Par contre, certaines associations sont très génératrices, effectivement, de difficultés de durée de séjour plus long à l'hôpital. Notamment les personnes qui cumulent problèmes de pauvreté, isolement social, problèmes de pauvreté, problèmes de logement, etc. Le problème de logement est quand même très, très générateur, par définition, de durée d'hospitalisation rallongée. Et là, ils vont continuer cette étude et ils vont la regarder non plus seulement par rapport à la durée, mais par rapport au coût de la prise en charge de ces personnes. Donc, c'est un travail qui va être fait, je crois qu'ils vont commencer prochainement, mais il n'est pas encore entamé. Et ensuite, il y a un deuxième travail qui est inscrit à leur programme de travail, c'est, on se dit que le maillage territorial doit exister, et donc ils voudraient créer des indicateurs géopopulationnels sur la précarité, de manière à pouvoir se dire, il y a une passe qui est là, c'est très bien, il en faudrait peut-être deux à cet endroit-là. En revanche, là, a priori, la passe, peut-être qu'elle n'a pas les publics qui seraient des publics passe typiques, ça vaudrait la peine de le réaffecter. Donc ça, c'est un peu un idéal, parce que les indicateurs géopopulationnels, on ne va pas les créer toutes pièces, on doit s'appuyer sur l'existant, et il n'est pas sûr dans l'existant, on ait le moyen, Big Brother, d'identifier toutes les personnes qui sont en situation de précarité. Voilà, je vous libère.